tout autre chose.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la première. Tout autre chose jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Et nous allons parler alimentation, nous allons parler bien-être, nous allons parler santé. Dans quelques instants, il y aura à nos côtés deux auteurs. D'une part, Dominique Leroux qui publie aux éditions Robert Laffont L'art de la frugalité et de la volupté. Et puis d'autre part, Pierre Billier qui publie aux éditions Amiris Diététique gourmande, une manière de s'alimenter. Alors tous les deux ont plein de choses en commun. Il y a aussi des choses qui les séparent. Nous passerons tout cela en revue avec bien évidemment aussi vos interrogations, vos interpellations et pourquoi pas vos témoignages. Je vous le disais, deux invités aujourd'hui pour nous parler alimentation, bien-être, santé mais aussi environnement. Dominique Leroux, bonjour.
Bonjour.
Alors Dominique Leroux, vous publiez L'art de la frugalité et de la volupté. C'est aux éditions Robert Laffont. Et puis à vos côtés, il y a Pierre Billier, bonjour.
Bonjour.
S'alimenter selon Pierre Billier, diététique gourmande. C'est un livre publié aux éditions Amiris. Alors je disais, il y a beaucoup de points commun entre vos deux ouvrages, mais aussi des divergences, bien évidemment, parce que il y a des choses que l'un accepte l'autre pas. Il y a des côtés un peu rabiques parfois hein, chez vous, Pierre Billier. Donc je ne vais pas me priver de vous titiller là-dessus.
Allez-y.
On va peut-être d'abord commencer par ce qui vous réunit et ce qui fait que c'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. D'abord, ce qui vous réunit, c'est l'Asie, puisque vous, Dominique Leroux, vous vivez depuis une trentaine d'années, si je ne me trompe.
Oui, exactement.
Oui, c'est mieux devant le micro, donc je vous demanderai de vous reculer un peu. Voilà, une trentaine d'années au Japon.
Oui, depuis 30 ans, un peu plus même.
Mm-hmm.
Oui.
Première rencontre avec le Japon, ça se fait comment, pourquoi ?
Le coup de foudre.
Coup de foudre.
Le coup de foudre.
Mm-hmm. Oui. Pour le pays, les gens, les habitudes, tout.
Tout, oui, l'esthétique, le mode de vie, oui, mm-hmm. Les gens, tout.
Alors une esthétique oui. Extrêmement présente hein, dans l'art de la frugalité, oui, de la volupté, oui. Vous n'y parlez pas. Loin s'en faut que d'alimentation. Et puis, je disais, point commun, vous l'Asie aussi, mais là, c'est Taïwan, c'est la Chine.
Oui, effectivement. Donc, j'ai vécu dans un temple taoïste, là, sur la montagne.
Et, vous en êtes redescendu.
Voilà, je suis revenu. parce que la vérité, enfin, la mienne, en tout cas, elle n'est pas à l'autre bout du monde.
Mm-hmm.
Et je suis venu là. Je suis rentré parce qu'elle était à l'intérieur de moi, voilà.
Mmh. Et c'est là que vous découvrez l'un et l'autre certains principes, certains préceptes en matière d'alimentation, Dominique Leroux.
L'influence de l'alimentation japonaise, non seulement ce qu'on mange, mais comment on le mange, dans quelle ambiance, avec le respect avec lequel on se nourrit au Japon. On ne mange jamais rien sans dire itadakimasu. Je reçois la vie pour vivre moi-même.
Mm-hmm.
Ça, c'est le sens profond. Toujours le respect des aliments. On voit rarement des gens qui mangent dans la rue au Japon. C'est très rare de voir quelqu'un qui marche en prenant un sandwich, par exemple. On mange très peu avec les mains, sauf les sushis. C'est pas ce qu'on mange, mais c'est comment on mange qui est très, très différent.
Oui, tous les rituels au niveau des contenants, on aura certainement aussi l'occasion d'en parler. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à l'alimentation, à la manière de s'alimenter là-bas, que vous avez ramené ici?
Je dois dire que dans la diététique gourmande, l'aspect chinois est une toute petite partie. Effectivement, c'est un point commun, mais ce n'est qu'une petite partie parce que ce que j'ai voulu, c'était vraiment écrire un ensemble.
Mmh. Mais à la base, j'entends bien, mais à la base, est-ce que c'est en Chine que tout d'un coup vous prenez conscience de l'importance de l'alimentation
Non, non. Je pense que c'est venu petit à petit, en fait. Voilà. J'ai été attiré par la Chine, par mon attirance pour le Tai Chi Chuan, qui est un art martial chinois, pour la langue également, mais c'est venu petit à petit, surtout après mon retour, parce que j'ai appris beaucoup en France, en Belgique, sur la diététique.
Mmh. Vous êtes naturopathe aujourd'hui ?
Oui.
Alors que vous aviez fait plutôt des études dans la finance, c'est ça ?
Oui, j'avais fait Sciences Éco. Et donc, je pense que je m'étais trompé de chemin. et que maintenant, je suis vraiment sur ma voie à moi. Et donc, je m'y sens vraiment très, très bien. Et c'est là que j'ai toute la gratitude de mes patients et des lecteurs.
Alors, dans ce qui vous réunit aussi par rapport à l'alimentation, il y a le respect effectivement de l'aliment, respect de son propre corps, de ses propres désirs, et j'ai presque envie de dire aussi de son propre savoir. Comme si nous étions quand même, malgré tout, alors on parlera après des dérives et de la manière dont on a pu être intoxiqué à la fois par la publicité ou par certaines manières de vivre et de consommer, mais dans l'absolu, il me semble qu'on retrouve quand même dans vos deux ouvrages, peut-être encore plus chez vous, Dominique Leroux, que chez vous, Pierre Billet, cette espèce de connaissance que nous avons de nous-mêmes et que finalement, si on s'écoute vraiment, si on se laisse aller à l'ouverture à qui nous sommes, nous, nous savons ce qui est bon pour nous.
Comme les animaux. Mmh. Oui. Les animaux savent quand s'arrêter de manger, les enfants aussi. Je crois que c'est avec la culture ou une certaine culture, enfin certaines cultures, qu'on mange comme on mange, quoi. Aux États-Unis, on mange d'une façon, en France d'une autre. Mais au Japon, on conserve beaucoup plus les traditions et la frugalité. Les Japonais sont passés au cours de l'histoire par des périodes très riches, comme l'époque d'Edo, qui est un peu le Moyen-Âge chez nous, par des périodes très pauvres, les tremblements de terre. Et donc, ils ont toujours conservé cette façon très, très frugale, mais esthétique de manger. Esthétique pour le plaisir, frugale parce que quelquefois ils n'avaient pas grand chose.
Alors qu'on sache chez vous deux, là je vais me tourner vers vous Pierre Billet, nous mangeons trop, nous mangeons mal, nous fabriquons des générations d'obèses.
Je ne veux pas du tout tenir un discours alarmiste, au contraire je suis très...
Enfin vous le dites quand même que le monde occidental s'obésifie.
Tout à fait, oui, tout à fait. Mais...
Enfin, vous n'êtes pas le seul à le dire, c'est un constat, je veux dire les pédiatres le savent bien dans leur cabinet.
Bien sûr, mais je pense qu'il y a en même temps beaucoup de gens qui prennent conscience qu'il y a moyen de bien s'alimenter. Et pour revenir à ce que vous disiez juste il y a une minute, quand on se connaît bien, on peut faire des choix justes pour sa nourriture soi-même, et donc ne pas devenir obèse. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont tellement l'habitude de souffrir d'une mac-bouffe, entre guillemets, qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ont bouché toutes leurs sensations, et donc ne peuvent plus savoir ce qui est bon pour eux. Et alors, évidemment, naît l'obésité et toutes les autres dérives qui peuvent en découler.
C'est le sentiment que vous avez vous aussi, Dominique Leroux, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens ne se connaissent pas.
Je pense pas, enfin, je raisonne pas tellement en termes de psychologie. Je suis même peut-être contre la psychologie, mais plus en termes de conscience. Je crois qu'on vit dans un monde de chaos, de bruit, de mouvement, qu'on ne prend plus le temps de penser, d'être conscient de ce que l'on fait. Et quand on mange beaucoup, c'est qu'on est inconscient. On oublie qu'on va être malade dans 2 heures, qu'on va avoir du diabète ou du cholestérol. Je crois que c'est pas une question de se connaître ou de ne pas se connaître, c'est une question de se poser ou de ne pas se poser. Quand une personne est bien, qu'elle est dans un bel environnement, elle ne va pas beaucoup manger. Elle sera nourrie par, je sais pas moi, la beauté d'un paysage ou le fait d'être heureuse tout simplement. Et quand on est, à mon avis, quand on est vraiment heureux, on ne mange pas beaucoup. Les gens obèses sont des gens qui sont malheureux peut-être.
Est-ce qu'il y a au Japon des interdits alimentaires?
Des interdits
ou des choses extrêmement déconseillées. Parce que chez vous, Pierre Billet, il y a des interdits. Oui. Dans votre livre, il n'y a pas d'interdit. On mange de tout avec plaisir. Oui. Et on mange ce qui nous convient, entre guillemets, mais on mange peu. Et on mange surtout de bonne qualité. Alors, vous, évidemment, comme la majorité des gens aujourd'hui, vous préconisez peu, mais bon, et de très bonne qualité, donc essentiellement de l'alimentation bio. Vous dites aussi, mais vous le dites tous les deux, je pense que s'alimenter bio n'est pas plus cher, quoi qu'on en pense, que de s'alimenter autrement, parce qu'en s'alimentant bio, souvent, on mange moins. Et donc, il y a, on s'y retrouve, quoi, au niveau de l'équilibre. Et qu'en mangeant moins, forcément, on dépense moins. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des interdits, néanmoins, au Japon?
Des interdits qui sont...
Ou des associations qu'on ne fait pas.
Voilà. Qui sont respectées depuis toujours au Japon. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, manger de l'anguille avec le wasabi. Jamais d'anguille, anguille wasabi et anguille umeboshi, les prunes salées en saumure. Il faut pas. Par contre, les Japonais mangent toujours de la. Je crois que c'est du. Oui, c'est du porc avec les épinards. On dit qu'il faut manger du porc avec les épinards parce que bon, ça se complète. Il y a des choses comme ça. Certains aliments qu'on ne doit pas manger telle ou telle saison, évidemment.
Alors vous, il y a une longue. Enfin, il y a certains interdits. Il y a surtout des associations à ne pas faire. Hein. Pierre Billier dans Diététique gourmande, ça peut sembler effectivement. Vous mettez en garde d'ailleurs le lecteur au tout début en disant voilà, ça peut sembler comme ça extrêmement dur et lourd à faire, mais au bout d'un certain temps, on y arrive de manière assez facile. C'est pas si compliqué que cela. Il y a quand même deux interdits que je relève et qui sont avec ou sans guillemets très à la mode depuis je dirais 10 ou 15 ans, c'est le lait. Oui. Alors vous allez vous en expliquer, mais aussi le gluten. Alors on va commencer par le lait. Alors
justement, le lait, c'est très intéressant comme par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, au Japon, ce n'est pas un interdit, ce n'est juste pas culturel, me semble-t-il.
Oui, exactement.
Point. Voilà.
Là, je repense à la question, et je me dis, en fait, il y a beaucoup de choses comme manger, boire pendant qu'on mange. Prendre des fruits après le repas.
Voilà. Enfin,
peut-être que vous avez.
Oui, je parle de tout ça, bien entendu. Oui. Et ça se retrouve naturellement dans certains pays. Mais ici, on peut considérer que c'est un interdit, mais c'est juste de la logique.
Pourquoi ?
Parce que je prends le cas de la digestion, par exemple. Qu'est-ce qui fait que vous digérez bien, notamment les sucs gastriques ? Donc dans l'estomac, c'est un acide. Quand vous buvez, vous diluez l'acide. Un acide qui est dilué, il est moins puissant, donc votre digestion prend plus de temps. Or, les Chinois considèrent que la digestion prend 45% de l'énergie. Donc, bien, vous perdez beaucoup d'énergie pendant plus longtemps. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment des choses toutes simples, toutes logiques. Et que les gens, à mon avis, dans certains pays, suivent naturellement, simplement par culture. Alors nous, si notre culture a dévié vers des choses qui sont pas trop bonnes pour notre santé, ben il suffit simplement de corriger légèrement. Et cette adaptation se fait lentement. Pour adapter toute une alimentation de quelqu'un qui, je dirais, est au plus profond du McBouffe maintenant, il lui faudrait à peu près 2 ans pour rejoindre la diététique gourmande. Ça se fait progressivement, gentiment.
Oui, ce sont des petites habitudes à prendre.
Voilà.
Moi, je me suis rendu compte qu'on ne buvait pas pendant les repas au Japon, parce que c'était naturel pour moi. Le jour où j'ai cherché des verres à boire chez les antiquaires, puis je me suis dit, mais j'ai jamais vu de verre. Il n'y a pas de verre. Et puis je me suis dit, mais oui, mais finalement, les gens buvaient peut-être l'eau du puits dans le temps, pendant la journée, mais pas pendant les repas. Pendant les repas, il n'y a rien. Enfin, il y a la soupe. Il y a toujours un bol de soupe de miso. Mais on boit le thé après, un petit peu de thé après le repas, mais on ne boit pas pendant le repas. Donc ça, j'ai réalisé. Le lait, c'est pareil, il n'y en a pas de lait. Il n'y a pas de lait, le lait, c'est pour les bébés, c'est le produit des vaches.
Et le lait de leur mère.
Oui.
De la même espèce.
Oui, oui, donc il n'y a pas de lait, beaucoup de soja, mais le lait, c'est pas...
Pas de fromage.
Le fromage non plus, non, 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 non.
Pourtant, dans l'art de la frugalité et de la volupté, vous parlez des yaourts, vous parlez de fromage, vous êtes assez adepte finalement de ça.
J'ai écrit le livre en pensant plutôt aux gens de chez moi. Enfin, j'ai pas du tout donné de recettes, par exemple, de recettes japonaises, parce que je pense que quand on est en France ou en Belgique, on doit manger avec les produits qui sont autour de chez soi. Donc je ne vais pas recommander des algues hijiki alors qu'on en mange tous les jours au Japon. Mais non, il faut le fromage. On en a en France. Au Japon, on a les tsukemono, les petits légumes en saumure, ce qui est un peu l'équivalent, un produit fermenté. Donc je ne suis pas adepte de ci ou de ça. Moi, quand je suis en Chine, je mange chinois. Quand je suis en France, je mange français. Comme ça.
Là, je suis assez d'accord, mais il y a de toute façon moyen dans chaque pays de respecter un certain cadre dans lequel vous avez un libre choix. Et en Belgique, il y a par exemple un fromage de, il y a le fromage de chèvre, de brebis, de, il y a le tofu qui est un fromage de soja. Il y a plein de choses alternatives, je dirais, au fromage de lait de vache qui lui.
Enfin, vous êtes quand même assez radical sur le lait de vache. Ne dites pas non, je l'ai lu.
Donc, oui, oui, oui.
Et en plus, vous le précisez vous-même, vous dites, oui, pour moi, c'est un interdit total, mais je peux comprendre et je peux entendre que de temps en temps, voilà, on peut se faire, on a envie de se faire plaisir et que c'est difficile au début.
Voilà, exactement. Donc, ce que je fais avec le livre, avec Diététique Gourmande, c'est créer un cadre et les gens font ce qu'ils veulent dans ce cadre. Mmh. C'est un peu comme les cibles. Quand vous tirez à l'arc, il y a plein dans
oui,
le mille,
ça, il y a l'idéal,
et puis
oui.
voilà, c'est ça. Il y a plein dans le mille, et puis il y a les différentes cibles plus éloignées. Mm. Et je laisse le choix aux gens de tirer où ils veulent, bien sûr. Sauf dans certains cas, si quelqu'un est malade, il faut qu'alors, pendant une certaine période, il fasse plus attention. Mais donc, c'est très libre, mais dans un certain cadre, pour que les gens puissent laisser parler leur cœur quand ils choisissent leur nourriture, mais en même temps qu'ils aient une certaine conscience de ce qui sera bon ou pas pour eux. Mmh. Et ça peut varier d'une personne à l'autre aussi, dans une certaine mesure, bien sûr.
Alors, autre interdit radical dans la diététique gourmande, c'est le gluten.
Oui.
Alors, on a fait toute une émission sur la maladie cœliaque. Là, on ne va même pas aller jusque-là, jusqu'à ceux qui ont développé cette maladie due à une intolérance au gluten. Pourquoi est-ce que le gluten est à ce point hors la loi chez vous, dans la diététique gourmande?
Alors, je ne dirais pas à ce point. Je mange parfois un biscuit qui est à base de blé et donc plein de gluten, juste pour le plaisir, mais en petite quantité. Mmh. Il y a des gens dont la nourriture consiste essentiellement en du pain et du fromage. Quand je dis supprimer les produits laitiers, enfin, je ne dis pas remplacer les par autre chose, et je dis remplacer le pain à gluten avec autre chose, si je ne précise pas tout de suite ce qu'est cette autre chose, les gens me regardent avec la bouche bée et me disent « mais c'est pas possible, je ne mange que ça ». Vous voyez ? C'est là le problème. Mmh. Alors, le gluten, c'est une protéine qui irrite l'intestin, qui fait que finalement, vous n'arrivez plus.
On ne métabolise plus les vitamines.
Voilà, vous assimilez plus convenablement. Mmh. Donc, ça pose un problème direct à ceux qui sont, heureusement pour eux, intolérants, parce qu'alors ils le sentent tout de suite. Mmh. Mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui le supportent, bien, pendant toute leur vie, vont s'affaiblir. Ils vont vivre avec une énergie qui sera peut-être, je lance un chiffre, à 80% de ce qu'ils pourraient avoir normalement. C'est dommage. Voilà.
Mmh. Le gluten, il est consommé au Japon? Faut qu'on le trouve dans les céréales, hein, blé, enfin quasiment dans toutes les céréales, sauf le quinoa, le millet, le sarrasin, j'en oublie, le maïs évidemment, il n'y en a pas dans le riz, mais tout ce qui est blé, seigle, orge, tout ça c'est
compliqué. Au Japon, on mange surtout du riz, quelquefois du pain, mais surtout du riz.
Alors les Japonais ont aussi des pâtes, j'ai oublié le nom,
et
qui sont à base d'algues et de sarrasin.
Le soba.
Voilà, le soba, merci. Oui. Et donc, cela, il n'y a pas de gluten non plus.
Oui, on mange beaucoup, beaucoup de soba. Voilà. Moi, j'essaie d'en manger tous les jours, à midi. Au Japon, en général, on mange des pâtes à midi et souvent des pâtes de sarrasin qui sont excellentes.
Voilà.
Excellentes.
Alors après, je réjouis Titi plus, mais comme ça, moi, c'est fait. Et puis, on peut passer à des choses agréables.
Allez-y.
Non, mais bon, on entend depuis tellement d'années parler de ces intolérances, de ces allergies, dont on sait qu'elles se multiplient effectivement. Il y a de plus en plus, effectivement, de médecins, de naturopathes, de professionnels de la santé, de diététiciens qui s'élèvent contre trop d'absorption ou l'absorption tout court de gluten, mais aussi de tout ce qui est produit laitier de vache, on précise. Dans le même temps, on vit là, ici et aujourd'hui. On a tous dans notre famille des personnes, enfin j'espère en tout cas des personnes assez âgées. Moi j'ai quand même une kyrielle de vieilles tantes et de vieux oncles et de vieilles arrière-cousines qui sont près des 90 ans, qui se portent comme un charme. Enfin tous, jusque-là, je touche du bois, qui ont toujours, depuis tout temps, sauf pendant les périodes de guerre, parce qu'elles les ont malheureusement connues, ont mangé du pain. C'était même souvent une des bases de l'alimentation, alors avec tout le reste. Hein. Mais et ont aussi bu du lait, ont mangé des fromages et elles ont l'air en bonne santé.
Oui, alors ça c'est une très bonne question, mais il y a beaucoup de choses à répondre à ça. D'abord,
on a du temps.
Oui, ok, parfait. La première chose, c'est que nous avons une énergie à la naissance, ce que les Chinois appellent le yuan qi. Yuan, ça veut dire de loin. Le qi, c'est l'énergie. Et donc, cette énergie-là, elle est inégale. Nous en avons tous une différente. Et si votre arrière-grand-mère a 120 ans, ce n'est pas peut-être uniquement grâce à une bonne nourriture ou à autre chose. c'est peut-être dû à ce bagage énergétique qu'elle a acquis à la naissance, et ça, nous sommes tous inégaux face à cela. Je considère qu'il y a 5 points pour être en bonne santé, que j'ai résumé par DEPEC, D-E-P-E-C, diététique, ça on en parle, énergétique, ce sont des pratiques comme les Japonais font, comme la méditation, les Chinois font ça aussi, le Qigong, le Tai Chuan, D-E-P-E.
Je vais vous retrouver le truc.
Je sais où c'est. P comme psychologie, oui. Parce qu'il est essentiel pour être en bonne santé, d'être bien dans sa peau, de savoir où on va et de se sentir à sa place sur Terre. Mm-hmm. Ensuite, il y a E comme l'environnement. C'est très important d'être dans un cadre qui vous permet de rester en bonne santé. Je pense par exemple à celui qui vit sous une ligne à haute tension. Il aura plus tendance à être nerveux, à moins bien dormir. Et alors le dernier point, c'est comme comportement. Et là, je pense par exemple à celui qui reste chez lui enfermé dans sa cave et qui ne voit personne ni la lumière du jour. Il a évidemment plus de chances de tomber en dépression que quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense que si chacun essaye d'améliorer chacun de ces 5 points, alors il est certain que sa santé va s'améliorer.
Mais donc, pour reprendre l'exemple de Mireille Tante, qui a plus de 90 ans, qui a toujours mangé du pain, du lait, qui a survécu à une guerre, et qui est franc battant, etc. Mais qui, je vais quand même rajouter un truc, a toujours été une femme assez active, souriante, bien entourée, et qui a toujours mangé sainement, genre légumes, fruits tous les jours.
Voilà. Ok. Donc voilà déjà une partie de sa diététique qui est tout à fait correcte. Deuxièmement, vous m'avez dit qu'elle était souriante souvent, donc c'est elle vrai. A une psychologie qui est excellente. Voilà déjà 2 des 5 points qui sont pour moi les principaux et qui sont déjà à vue de nez comme ça. Je la connais pas, mais à vue de nez qui sont déjà bien en place. Et puis il y a encore 2 remarques à faire sur votre chère tante. C'est que d'abord, pour voir s'il est vraiment en bonne santé, il faut se poser la question, comme je dis au début de Diététique Gourmande, c'est est-ce que par exemple elle a parfois le nez qui coule? Est-ce qu'elle a parfois la gorge qu'il faut dégager? Est-ce qu'elle va à selle régulièrement? Est-ce qu'elle n'a pas des diarrhées, des constipations et des choses comme ça? Tous des petits malaises que les gens considèrent comme normaux, mais qui ne sont pas naturels. Et nous ne devrions pas avoir tout ça.
Et jamais le nez qui coule, vous?
Quand je vais en haute montagne, la différence de température fait que parfois j'ai le nez qui coule. Mais je dois dire qu'à Bruxelles, là, je suis tout à fait à l'aise.
Dominique Leroux, vous avez le nez qui coule parfois?
Oui.
Ceci dit, si vous tombez malade, que vous avez un rhume ou une grippe, peu importe, et que vous avez le nez qui coule, ça a aussi un sens. Hein. Donc ça, c'est plutôt l'aspect naturopathique que l'aspect diététique, mais chaque maladie a un sens, elle est un message et c'est intéressant de l'avoir. Donc il faudrait voir ce qu'il y a dans le sac de votre grande-tante. N'allez pas fouiller mais demandez-lui.
Non, elle est très loin de votre maladie.
S'il y a beaucoup de médicaments dedans, ça prouve qu'effectivement elle n'est pas tout à fait en bonne santé. Alors des gens me diront oui mais il y a l'âge, je pense que nous pouvons vivre en bonne santé jusqu'à notre dernier jour. Voilà. Alors une autre remarque à faire sur votre chère tante, c'est que elle a probablement vécu la plupart de sa vie avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut savoir que avant 1945, tous les produits chez nous étaient bio. Parce que les pesticides ont été apportés par les Américains, en même temps que la paix, hein, il n'y a pas de jugement, ils ont été apportés par les Américains, et donc les produits ne sont plus bio, il y a des OGM, organismes génétiquement modifiés. Aussi depuis ce temps-là, c'est là que ça a commencé. Hein. Donc les personnes âgées maintenant ont bénéficié d'au moins 50 ans de bonne nourriture.
Pas 50 ans, elles auraient 110 ans sinon, ça fait 60 ans que la guerre est finie, donc allez, 40 ans à tout casser, elles auraient 100 ans.
Disons, on va pas chipoter pour 10 ans. Mais
sur une vie, c'est pas mal.
Oui, mais l'enfance, c'est
ça,
la partie la plus importante.
Disons que l'enfance, donc c'est peut-être ça. Là, c'est que c'est important.
Pendant laquelle la santé se
Évidemment, quand bien même c'eût été 6 ou 7 ans de leur vie, ce sont les 6 premières années qui sont essentielles, à l'été, etc. Et même si elles ont eu certaines carences durant la guerre, malgré tout, la nourriture était quand même de meilleure qualité. Maintenant, on a le bio, on y revient. Hein. C'est pour ça que je vous disais en début d'émission que je suis positif. Hein. Je pense qu'il faut rester positif par rapport à ça.
Alors ici, on a quelques messages qui nous arrivent. Je vous les livre et vous pouvez bien sûr réagir si vous le souhaitez. Nicolas qui nous dit merci de parler de la frugalité. La frugalité est à réhabiliter. Je résume habituellement le vague concept de développement durable comme étant l'éthique de la frugalité dans tous les domaines de ma vie personnelle et professionnelle.
C'est très beau, c'est très bien, oui, je pense que bon, si on avait beaucoup moins à manger, je pense qu'on, déjà, se nourrir, c'est pour la survie, donc déjà prendre ça comme ça, parler bio, pour moi, c'est quelque chose qui m'énerve, tout simplement, parce que tout devrait être bio.
J'ai eu peur un instant.
Quelle est la proportion de...
Non, mais je veux dire, c'est on devrait dire, il y a des produits chimiques dans ce qu'on vous vend.
Oui.
Il ne devrait pas y avoir des étiquettes bio, mais des étiquettes produits chimiques. Mais ça serait ça. Pourquoi on met des étiquettes... pourquoi il y a des produits chimiques? Pour produire plus, pour faire gagner de l'argent à certains. C'est...
Vous dites quelque chose de très beau, Dominique Leroux, dans l'art de la frugalité et de la volupté. C'est aussi un concept que vous développez, Pierre Millier, parce qu'on fait partie d'une société, d'un environnement, et nous avons, évidemment, le pouvoir sur cet environnement.
Exactement.
Et vous dites quelque chose, vous dites en fait, les femmes ou les hommes, hein, on va pas faire de sexisme, ne se rendent pas compte que la révolution, le changement de société, ça pourrait arriver dans la cuisine.
Bien sûr.
À partir du moment où l'on décide de moins consommer ou de ne pas consommer du tout certains produits, et notamment les produits manufacturés, notamment... les produits tout faits préparés industriellement, le sucre aussi. Je veux dire, c'est toute une industrie qui s'effondre et cela obligerait toute cette industrie-là à se recycler.
Exactement.
Et à faire les choses autrement.
Exactement.
Nous avons le pouvoir, la ménagère ou le ménager, on va le mettre au singulier, celui en tout cas qui fait les achats, a le pouvoir.
On a tous les pouvoirs puisque c'est nous qui achetons. Si
oui,
nous, on cesse d'acheter, les producteurs cesseront de... Enfin, ceux qui font de mauvais produits cesseront de les faire. C'est parce qu'on les achète qu'ils continuent à les faire.
Et c'est pour ça que dans diététique, il y a éthique. Il y a ce mot-là parce que, effectivement, si vous achetez, par exemple, des crevettes à la Côte du Nord qui sont décortiquées au Maroc, eh bien, vous polluez la terre
bien
avec
sûr.
Un avion ou un bateau
bien
qui
sûr.
Fait l'aller-retour.
Voilà. Mais on voit de plus en plus, quand même, de gens qui sont attentifs à la provenance.
Oui.
Des aliments, y compris les bio, qui ne sont pas toujours éthiques, puisque parfois on se retrouve avec des produits bio dans certaines grandes surfaces, mais qui viennent du bout du monde.
Tout à fait.
Alors ici, Sabine qui nous dit « Bonjour, cela me fait plaisir d'entendre que l'on sait ce qui nous convient. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je ne mange jamais de fruits, jamais de produits de goût sucré en général, desserts ou autres. Et les gens hurlent en me disant « Mais tu dois manger des fruits, sinon tu as une mauvaise alimentation. Par contre, je mange des légumes cuits, des crudités, des sucres lents, pâtes et pommes de terre, des fromages et un peu de viande. Et merci, ça va, j'ai 50 ans et une bonne santé. Le plus bizarre, c'est que si c'est pour faire plaisir lors d'un souper chez des amis, je mange quand même un dessert, je me sens mal. »
Oui, alors c'est effectivement une excellente réflexion. Le dessert n'est pas nécessaire et je préconise simplement de prendre, si vous avez besoin d'une sucrerie en fin de repas, de prendre l'équivalent d'une praline. Pas plus. Sinon, vous dérangez tout la digestion.
Le fait d'avoir... Là, on peut presque parler d'une forme de dégoût pour les fruits, puisqu'on n'arrive pas à en manger.
Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle le yin-yang chez les Chinois. Le yin est l'aspect féminin, le froid, l'hiver. Et le yang, c'est l'opposé complémentaire.
Vous déconseillez de manger des bananes en hiver?
Voilà. Donc, justement, parce que la banane est extrême yin et l'hiver est yin. Donc si vous êtes une femme, c'est yin, vous êtes en hiver et vous mangez une banane, vous allez vous refroidir trop. Et donc vous perturbez cet équilibre yin-yang. Alors c'est simple, les fruits en général sont plus yin que le reste de la nourriture. Et donc si la dame
Sabine,
n'aime pas les fruits, c'est peut-être parce qu'elle est à la base très yin. Alors dans ce cas-là, bien, qu'elle suive son... ses attirances. Si elle est plus attirée par des légumes, tant mieux qu'elle mange plus de légumes et je dirais un peu moins de fruits. Il y a certains fruits, et je lui conseille d'essayer le litchi par exemple, qui est un fruit très yang. Peut-être que ça lui plaira.
Mmh. Au Japon, on mange très peu de fruits. D'abord parce qu'ils sont très très chers. Très très chers. Mais c'est pas dans la culture aussi de manger des fruits. On mange... Par exemple, on partage une pomme en 5 ou en 6 et chaque personne prend un petit morceau de pomme ou un raisin. un grain de raisin. C'est comme ça qu'on mange les fruits. Jamais une personne mangerait une pomme à elle seule.
Mais il y a quelque chose de très beau aussi dans ce que vous expliquez de l'art de la frugalité et de la volupté en partant de la base japonaise. C'est justement, vous venez dire, on partage une pomme, mais on partage les repas. Oui. Vous expliquez par exemple qu'il n'est pas rare que des Japonais, quand ils vont au restaurant, en ceux y compris en dehors de chez eux, commandent par exemple une omelette pour quatre.
Oui,
et puis après, un plat, mais qu'ils vont aussi partager. Oui. Alors, ils vont consommer un certain nombre de plats, bien sûr, mais chaque plat qui est censé être individuel sera partagé. Et donc, ainsi, ils goûteront chaque fois à des petites portions.
Oui, ça se passe toujours comme ça. Et de toute façon, les portions sont bien trop grosses. En Occident, les Japonais, et puis par exemple, ne manger que de l'omelette ou ne manger que... Qu'est-ce qu'ils pourraient boire ? Du poulet et des frites, pour eux, c'est avoir seulement du poulet et des frites pour un repas, c'est inimaginable. Il n'y a que deux goûts. Eux, il leur faut cinq ou six petites choses. Donc, ils préfèrent commander différents plats, les mettre sur la table et on partage.
Les Chinois font ça aussi. Oui. Et je trouve ça très chouette d'un point de vue humain, parce que le partage du repas, c'est quelque chose de très agréable. Mais d'un point de vue association, parfois, ça pose problème, parce que vous avez un plat de poisson, un plat de viande, un plat avec des œufs, etc. Et tout ça se mélange pas. Tout ça ensemble, ça fatigue et ça alourdit la digestion. Voilà. Donc il y a du pour et du contre.
On va peut-être parler aussi de, justement, revenir au cœur aussi de votre ouvrage, de ce qui se mélange ou de ce qui ne se mélange pas.
Très
justement,
important.
Maintenant qu'on a évacué la question du gluten et du lait, on vous retrouve dans quelques secondes.
Wallonie Week-end Bienvenue. Des Wallons vous ouvrent leurs portes.
Ce week-end, bienvenue à Montigny-le-Tilleul, Jedogne, Dour, La Roche-en-Ardenne et Welkenrad.
Plus d'infos sur walloniebienvenue.be.
La première, restons curieux.
Voilà, on se retrouve avec d'autres interventions aussi d'auditeurs. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Leroux et de Pierre Billier. Dominique Leroux publie aux éditions Robert Laffont « L'art de la frugalité et de la volupté ». Et Pierre Billier publie chez Amiris « Diététique gourmand ». Diététique, évidemment, deux mots avec le mot éthique comme éthique. Alors ici, Géraldine qui dit « Mon fils avait de grosses difficultés scolaires, difficultés de concentration et d'apprentissage à la lecture. J'avais tout essayé, psy, neurologue, etc. En septembre, nous avons été chez une naturopathe. Elle m'a conseillé de changer pour l'instant son pique-nique pour l'école. Biscuits bio, plus de fruits et légumes. Alors, je ne sais pas si c'est plus ou plus. Enfin bon, plus de fruits et légumes, graines de tournesol et amandes. C'est vrai que cela n'a pas été évident au début, mais j'y suis arrivée. Et mon fils m'a ramené des résultats spectaculaires, 80% dans toutes les matières. Alors, je conseille fortement la consultation d'un naturopathe, ne fût-ce que pour notre santé. Ça, c'est un témoignage qui doit vous faire plaisir, Pierre Billier.
Oui, oui, tout à fait.
Vous devez être radieux.
Si beaucoup de gens pouvaient s'inspirer de ça, comme je vous l'ai dit, la diététique est un des 5 points pour être en bonne santé. Effectivement, parfois, améliorer uniquement ce point-là peut modifier très sensiblement le comportement.
En clair, ce qu'on ingurgite, c'est notre carburant quand même.
Tout à fait. Et les Chinois disent « tu es ce que tu manges ».
Oui, oui. Et s'alimenter, c'est médecine. Ça, c'est sur le votre livre. Au Japon aussi, on dit ça.
Bien sûr.
Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une forme de contrôle social sur ce que mange le voisin, le collègue de bureau? Est-ce que mal manger au Japon, alors peut-être que ça change maintenant, évidemment, puisque le monde entier, malheureusement,
mal manger,
s'occidentalise et se mal bouffise. Mais est-ce que mal manger est mal considéré?
Je crois que c'est rare de mal manger.
Ah.
La nourriture au Japon est presque une religion. Et
y compris vraiment... chez les jeunes, y compris chez les ados.
Tout le monde, oui. Ah, oui. Et même des jeunes de 10 ans, 12 ans disent « Ah ben tiens, les pâtes de sarrasin sont meilleures dans ce restaurant que dans celui-là. La soupe dans laquelle on les mange est trop salée ou il manque un peu d'algues. » Enfin, dès le plus jeune âge, ils sont très, très pointus sur les goûts, sur la qualité des produits. Dans les magasins à Tokyo, par exemple, les légumes sont toujours
En vrac.
Non, pris le matin. Ils sont frais. Ils sont frais.
Cueillis.
Voilà.
Oui. Voilà. Cueillis le matin.
Cueillis le matin. Les poissons attrapés aussi le matin ou la nuit. Et donc, il n'y a pas de mauvaise nourriture au Japon. Il y a des McDonald's, mais bon.
Ils sont vides, c'est ça?
Non, ils ne sont pas vides, mais les jeunes mangent au McDonald's, mais ensuite, ils rentrent chez eux manger la soupe de miso. Mmh.
Oui, enfin, dans vos deux livres, il y a ça aussi, entre guillemets, la permission de l'écart, quoi. D'ailleurs, vous vous-même, il vous arrive de vous faire un bon gros sandwich avec une... du beurre. Enfin, vous ne dites pas ça comme ça, parce que la margarine aussi, j'ai remarqué, vous n'aimez pas.
La margarine,
alors,
non.
Vous
mais
détestez
le, beurre,
le pudding. Le pudding, je pense, revient 4 ou 5
à
fois.
À Boudwick.
Boudwick.
Ah oui, là, ça, c'est
Boudwick.
L'horreur. Oui,
ça, ouais,
c'est
Boudwick. Ça, vous détestez ça.
Ça, c'est... En fait, si
vous avez eu un problème avec la crème Boudwick.
Vous lanciez le sujet des associations.
Oui. Eh bien, c'est la pire des associations,
voilà,
d'après vous.
Si vous voulez vraiment
vous mettre en colère.
Ah non, moi, je suis tout à fait à l'aise. Je dis, chacun fait ce qu'il veut. Je suis juste là pour apporter une information.
Alors, l'exemple de la crème Boudwick. La plus mauvaise association qui soit.
En fait, oui, si vous mélangez tout ce qui ne va pas ensemble, vous avez une crème Boudwick. Donc vous prenez des produits laitiers, bien sûr, vous prenez des fruits. Or, je ne l'ai pas encore dit, mais les fruits ne se mélangent. Et ça répond, je voulais dire ça à Sabine.
Par rapport aux fruits, à Sabine, oui.
Les fruits ne se mélangent avec rien d'autre qu'avec des fruits. Donc vous les mélangez avec des produits laitiers, vous mélangez en plus de ça des céréales à gluten. Et qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Je ne sais plus très bien, mais alors, il y a encore un ou deux ingrédients, et ça fait quelque chose. Ah oui, 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 ça, c'est les fruits.
Le
donc,
miel.
Oui, le miel contient de l'acide formique qui inhibe la digestion. Donc, vous êtes comme ça, vous êtes certain de pas du tout digérer votre bombe alimentaire. Donc, ça, c'est le pire. Donc, les associations sont très importantes. Par exemple, si vous voulez manger des fruits, ben mangez-les en dehors des repas, idéalement à 16 heures. Alors vous en profiterez un maximum. Si vous mangez une salade de fruits au sortir de n'importe quel repas, eh bien là, ça va être détonnant, ce sera très mauvais pour vous. Voilà, je viens de casser une fausse croyance populaire.
J'entends les gens sangloter d'ici.
Je crois que maintenant, il y a de plus en plus de... Les gens manquent de repères en matière d'alimentation, parce qu'il y a tellement de régimes qui sont proposés ou de façons de s'alimenter. Les gens ne savent plus tellement où ils en sont, ce qui est bon pour eux.
C'est exactement ça qui m'a touché, justement, au moment où j'ai décidé d'écrire Diététique Gourmande.
Oui.
Parce que si vous lisez un livre de diététique,